radio Casa Oriental. Je réfute totalement cette
histoire. Moi, c'est une de vos compagnies au Kasonga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux, la vie de mes présidents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci de votre fidélité à Radio Okapi. Nous sommes à un nouveau numéro de Parole aux auditeurs, votre magazine d'échange citoyen. Le programme d'hygiène et d'assainissement installé dans 9 communes de Kinshasa est à terme depuis le 20 août 2015 dernier. Ce programme initié par l'Union européenne en partenariat avec le gouvernement congolais depuis 6 ans a permis notamment à la ville de Kinshasa de traiter 11 000 mètres cubes de déchets urbains chaque semaine. C'est désormais le gouvernement de la province de Kinshasa qui poursuivra la direction de ce projet. Alors comment réagissez-vous à la fin de ce programme de l'Union européenne? En direct, vous pouvez participer à ces débats citoyens au 081-890-6315. Vous avez également la possibilité de commenter ces sujets sur notre page Facebook. Vous pouvez aussi nous écrire à notre courriel pa@radiokapi.net. Julie Feza Bongonda réalise ce programme, mis en onde par Paul Badianyam, sous la supervision de Léonard Moulamba. Ce programme est coordonné et présenté par J.R. Lungembo. Bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs, pour participer, 081-890-63-15 ou par internet pa@radiokapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
De nombreux observateurs soutiennent que ce programme a contribué notamment à l'amélioration du cadre de vie des habitants de la capitale. Jeannot, vous êtes à Bounia, bonjour.
Bonjour.
Voilà, Monsieur Jeannot, vous êtes avec nous, vous avez souhaité participer à ces débats citoyens. Quel est votre point de vue?
Bon, mon point de vue est que tout montre est que ce programme a contribué quand même à l'amélioration de la vie de Kinshasa. Mais ce qui est déplorable pour moi est que je suis en train de constater que rien ne peut se faire dans ce pays sans qu'il y ait l'apport externe, c'est-à-dire pas qu'il y ait l'aide externe. C'est comme si on se rend compte, que rien ne peut se faire dans ce pays sans qu'il y ait soit l'aide externe. Là, c'est par là qu'on se demande un peu quelle est alors la place des dirigeants congolais, puisque on croit, par rapport à ce qui se passe dans notre pays, on se demande s'il y a réellement des dirigeants congolais, parce que si l'aide externe est bloquée, tout est bloqué dans notre pays. Et moi, je crois que si ce programme-là est aujourd'hui bloqué, évidemment, c'est parce qu'il n'y a pas la volonté politique des acteurs congolais. Les moyens sont là. Ce pays ne peut pas marquer les moyens. C'est juste une question du manque de la volonté politique de la part des dirigeants congolais.
Est-ce que, M. Jeannot, vous avez une idée sur en fait, l'idée générale autour de partenariats entre la RDC et ses partenaires traditionnels, par exemple?
Bon, à titre d'illustration, je voudrais un peu, nous avons suivi aux antennes de la radio du Lapin, notamment le programme de la vaccination. Mmh. Il y a des problèmes aujourd'hui de la vaccination. Évidemment, parce qu'il y a absence de l'aide. Le programme de la vaccination dépend en 90% de l'apport de la communauté internationale. Maintenant, on se demande comment les efforts qui doivent concourir au bien-être des Congolais dépendent beaucoup plus de la communauté internationale que de l'apport interne de notre pays. C'est ça, c'est un peu le problème.
Oui, mais est-ce que le problème réside au niveau de ce partenariat ou, pour vous, donc si je comprends bien, la volonté politique qui doit, au fait, accompagner ce partenariat, enfin, d'être toujours aux aguets dans la mesure où, soit il y a des engagements des partenaires, soit il y a ce principe de continuité, comment mobiliser également les fonds pour pérenniser, par exemple, un projet qui est censé d'améliorer le cadre de vie des habitants à travers le pays, par exemple?
Bon, effectivement, le gouvernement congolais ne doit pas laisser tout à la portée de la communauté internationale. Il faudrait que le gouvernement mette en place effectivement ce moyen pour accompagner ce partenariat. C'est ce que nous voulons. Nous voulons aussi voir l'action du gouvernement. Il ne faudrait pas qu'à chaque moment, si l'aide externe est bloquée, le programme aussi est bloqué. C'est un peu ça.
Mais alors, mais nous avons suivi cette actualité. Ce programme, comme tout le monde l'a souhaité, mérite bien d'être poursuivi et étendu sur toute l'étendue de la ville de Kinshasa. C'est vrai, il s'agissait là de Paro, un programme d'assainissement et de l'hygiène et d'assainissement de la ville. Mais bon, il y a autant d'autres programmes qui sont éparpillés à travers le pays. Mais le fait que la province ait déjà s'est prononcée au niveau sur la continuité en fait de ce projet, je crois que c'est quelque chose qu'on peut encourager.
Bon, effectivement, si ça s'inscrit dans ce cadre-là de la continuité des services, en tout cas, c'est une chose à encourager. Mais ce que nous voulons voir un peu la concrétisation de cette continuité à la longue.
Donc, si je comprends bien, vous vous doutez un peu, vous avez un peu quelques hésitations. C'est à quel niveau que cela peut vraiment se situer, votre hésitation?
Bon, l'hésitation se situe par le...
Est-ce que c'est sur le moyen que va mobiliser le gouvernement de la ville de Kinshasa?
Bon, les moyens sont là, je pense que ce pays ne sait pas manquer les moyens, mais l'hésitation que nous avons, ou le doute que nous avons, est qu'il y a pas mal de programmes qui ont été établis par les dirigeants congolais. Effectivement, ces programmes sont restés de lettres mortes sans exécution. Si ces programmes, et du moins à une partie a été exécuté, c'est par rapport de l'Union européenne. Maintenant, on se demande si aujourd'hui l'Union européenne arrête son aide, quel sera le sort de ce programme par rapport au comportement des dirigeants congolais.
Voilà, soulignons déjà que ce programme est à terme, disons depuis le 20 août 2015. Maintenant, ça va se poursuivre avec l'appui des deux gouvernements provinciaux de la ville-province de Kinshasa. Merci beaucoup, Jeannot, d'avoir appelé de Bounia. On va prendre Madame Joséphine qui est à Boston. Madame Joséphine, bonjour.
Ah, bonjour Radio Okapi, merci beaucoup de m'avoir passé la parole. Je vais dire ceci. Le programme
Paro de l'Union Européenne, en partenariat avec le gouvernement congolais.
De l'Union Européenne pour prendre les poubelles. Vous savez, ce programme-là, ce sont les Anglais qui ont commencé. L'entreprise qui avait remarqué qu'il fallait prendre des poubelles, faire le recyclage, trier et tout, ils ont observé pour la première fois que c'était un problème d'abord de la population, dans des villes, dans des régions, dans des pays. Vous savez, la ville de Kinshasa, là, c'est une ville qui c'est une ville qui était prévue à peut-être 500 000 habitants, je crois. Mais à partir de 500 000 habitants, maintenant, il y a 10 millions d'habitants. Ce qu'il faut faire, il faut d'abord construire d'autres villes tout autour de la grande ville de Kinshasa, la région. Construire d'autres villes qu'on dégage d'abord la ville de Kinshasa, qui est des populations qui vont déménager pour dans d'autres villes. Et puis on va commencer à recycler, à prendre les
déchets.
Mmh. Ça c'est je suis en train de donner des idées. Mais ce qui me fait mal, moi, jusqu'aujourd'hui, si on doit toujours s'appuyer à l'Union européenne pour venir faire la propriété de notre capitale, c'est une honte. Dernièrement, ici, le président est allé au Katanga ou à Lubumbashi. Il demandait où sont les est-ce que dans cette ville ici, est-ce qu'il y a des gens, il y a des riches. J'ai envoyé beaucoup d'argent dans cette région, mais il n'y a pas de riches. Pourquoi aller à Lubumbashi demander des questions comme ça? Si vous arrivez à Kinshasa, au Congo, vous allez dans des banques. Vous demandez des crédits, on ne vous donne pas. Ce programme-là devait être fait. Ce sont des entreprises qui devaient se créer. Ce sont les Congolais locaux qui devaient se prendre en charge. comment se prendre en charge, c'est tout en créant des petites et moyennes entreprises. Ici, on voit les gens qui prennent les poubelles ici aux États-Unis. Ce sont de petites et moyennes entreprises. Ça crée de l'emploi. Vous ne pouvez pas vraiment aller demander l'Union européenne ne peut pas venir pour vous montrer qu'il faut nettoyer la ville. Donner à la population les moyens de créer des petites et moyennes entreprises, parce que c'est quelque chose, la poubelle, c'est quelque chose de chaque jour. Chaque famille, chaque maison, au Congo, à Kinshasa, à Lubumbashi, partout, chaque maison produit la poubelle chaque jour. Et je me demande si l'Union européenne doit faire ça. Ils vont rester au Congo pour toute la vie de Congolais. Ils vont rester au Congo pour du bon. Donner à la population le moyen pour qu'ils puissent créer les petits et moyens.
Oui, madame Joséphine, quand vous parlez des moyens, c'est que la population doit faire des projets dans ce sens-là.
La population doit avoir le moyen d'aller prendre l'argent à la banque pour qu'il crée les petites et moyennes entreprises. Parce que c'est un programme de chaque jour. On ne peut pas laisser ça à l'Union européenne.
Oui, parce que parler de 11 000 mètres cubes par semaine, c'est déjà un gros problème. Si nous pouvons multiplier par autant de jours par mois ou par année, c'est que Kinshasa produit déjà beaucoup de déchets.
C'est pour ça que j'ai dit que l'Union européenne ne peut pas prendre cette charge-là. C'est quelque chose qui doit créer l'emploi. Et ce qu'il faut faire, la ville de Kinshasa, là, je compare maintenant à la ville de New York, mais il faut voir combien d'immeubles il y a à New York. À Kinshasa, il n'y a pas de maisons. Créer d'autres villes à côté de Kinshasa, il y a beaucoup de places. Créer d'autres villes à côté de les 24 villes de Kinshasa, créer encore 24 autres villes en dehors des 24 villes de Kinshasa, vous allez voir que le problème de poubelle, ça va se terminer. Ça va créer l'emploi. C'est quelque chose qui crée les petites et moyennes entreprises. Quand la population a l'argent, ils vont aller à la banque, prendre l'argent à la banque, ils créent les petites et moyennes entreprises pour prendre les poubelles.
Encore faut-il que cette population ait le courage ou encore développe ce genre de projets pour, en fait, venir à appuyer également les gouvernements. Mais dans le cas contraire, Madame Joséphine, est-ce que vous pensez qu'une population qui ne fait pas de propositions, par exemple, au gouvernement, ou ne fait pas ou ne propose pas auprès des partenaires de l'État congolais, je crois qu'on ne peut rien attendre. Je crois que le partenariat ne pourrait résider qu'entre l'État et ses partenaires traditionnels.
Monsieur J.R., quand vous parlez de courage, qu'est-ce que vous voulez dire?
Oui, que la population propose des projets bancaires.
J'ai rencontré un homme qui fabrique les chariots. Mais vous voulez combien de courage? Un homme qui fabrique les chariots lui-même, il m'a dit, maman, j'ai 51 chariots. Moi, je lui ai dit, papa, pourquoi vous n'allez pas à la banque pour... Je suis déjà allé à la banque pour prendre... Personne ne me donne l'argent pour que je fabrique les chariots. Vous savez que si vous donnez l'argent, si vous donnez un crédit bancaire à l'homme là qui fabrique les chariots, depuis que les chariots existent au Congo, on pouvait avoir même des chariots avec des petits moteurs. Les chariots même là qui existent à Kinshasa là, vous pouvez leur donner des crédits. Ils fabriquent même 500 000 chariots. Avec 500 000 chariots en moteur, la ville de Kinshasa sera propre. Vous n'avez pas besoin d'Union européenne. Le courage, le Congolais, c'est un homme courageux. Vous n'avez pas l'idée de dire. Il ne faut pas dire ça. Je suis en train de pleurer. Le Congolais, c'est un homme courageux. Vous n'avez pas l'idée. Si vous n'avez pas l'idée, l'homme qui... J'essaie de donner déjà l'exemple. Ça va créer l'emploi.
Tout à fait, ça va créer...
Construire d'autres villes, voilà, donner ça, à l'homme congolais
des moyens
pour qu'il
et faciliter l'accès au crédit bancaire. Voilà. Voilà, merci beaucoup madame Joséphine, on retient deux points, donc il va falloir faciliter donc l'accès au crédit à la population qui en fait a des projets dans ce sens pour améliorer également le cadre de vie des habitants à travers le pays en matière de l'assainissement de nos villes. Voilà, il y a pas mal de projets, mais vous avez souhaité que ces projets ne puissent pas rester au niveau institutionnel, au niveau officiel. Il faut que le gouvernement ou encore l'État congolais puisse aider même les petits citoyens à avoir des moyens pour au fait venir aussi à l'appui par rapport au projet qu'il initie. Merci beaucoup Joséphine d'avoir appelé de Boston. Félicien, vous êtes à Kinshasa, bonjour.
Bonjour bonjour à tous les auditeurs, bonjour à l'invité s'il y en a un.
Voilà, vous avez la parole Félicien.
Oui, moi je suis en train de m'étonner d'entendre que notre ville est nettoyée par l'Union européenne. Et je ne savais pas qu'il y avait un projet dans ce sens-là. Et vous avez dit que ça ne concerne que, ça concernait que 9 communes. Mais comment est-ce que nos autorités peuvent accepter que l'Union européenne vienne nous aider à rendre propre notre ville dans les domaines de l'hygiène et de la salubrité? Et nous sommes encore des enfants.
Et Félicien, vous êtes dans quelle commune, vous?
Moi, je suis à Limété.
À Limété. Voilà, parmi les 9 communes qui étaient concernées, on nous a signalé qu'il y avait Barumbu, Gombe, Kinshasa, Passa, et puis, Passa pour l'enregistrement technique, et puis il y avait la commune de Kintambo, Lingwala, Kasabubu, Ngiringiri, Kalamu.
Oui, mais vous trouvez ça normal, Gilles, que l'Union européenne vienne nous aider à nettoyer les villes. Mais cette même Union européenne, quand il nous reproche la mal gouvernance, quand il nous reproche la mauvaise gestion de la chose publique, nous disons que nous sommes souverains, c'est notre souveraineté, ils n'ont pas les ordres à nous donner, et ceci, cela. Mais nous acceptons qu'ils viennent nettoyer nos villes, ils viennent nous aider. Nous ne sommes pas des enfants pour que nous soyons aidés par nos parents. Non. Moi, je pense que ce pays a une histoire, a un passé. Nous avons été colonisés et cette ville a été salie, a été propre. Mais tout ce qu'on faisait pour que la ville soit propre. Nous avons eu la Deuxième République. Mais jusqu'en 1980, cette ville ici, c'était Kinshasa la Belle. Comment on faisait pour qu'elle soit belle? Et nous avons aussi ailleurs pour voir que nous avons dans d'autres villes et dans d'autres pays, comment ils font pour que leur ville soit propre? Pourquoi nous devons nous tâtonner et qu'on vient nous aider par l'Union européenne? Qu'est-ce qui arrive pour que nous ne soyons pas capables de faire la continuité de ce qu'on nous a légué? Même les entreprises publiques qu'on nous a léguées. Aujourd'hui, ils sont des canards. Hier, c'était des canards boiteux. Aujourd'hui, beaucoup sont morts. Et on ne sait plus gérer. Est-ce que les problèmes ne se trouvent pas dans l'homme? Nous avons un problème d'homme. Et nous avons besoin de chercher à créer une nouvelle race d'hommes d'État, d'hommes politiques, qui soient épris de patriotisme et qui soient épris de l'amour du prochain. Parce que ça ne va pas comme ça. Nous devons avoir honte quand nous devons parler des choses comme ça. Et il y a des choses où on peut nous aider par l'étranger, mais il y a des choses que nous devons refuser, qu'on doit nous aider. Parce que ça ne peut pas nous dépasser de nettoyer nos vies. Nous sommes capables de nettoyer nos vies, nous sommes capables de créer des sociétés qui puissent fonctionner. Ça ne se fait pas le jeu de la tête. Comment est-ce que le gouvernement peut accepter que l'Union européenne vienne nous aider dans des petites histoires comme nettoyer la ville? Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je crois que les hommes politiques doivent prendre conscience de que ce n'est pas ça qu'ils doivent faire. S'ils sont en mesure de construire des immeubles qui construisent des immeubles à leur propre profit, et donc ce n'est pas nettoyer la ville qui sera un grand travail. Et que les gens se remettent en cause, que les gens réfléchissent, ils sont en train de travailler pour l'intérêt du pays, pour l'intérêt de notre peuple. Mais il y a quelque chose qui ne va pas et nous devons revoir cela.
Alors, si je comprends bien, Félicien, pour vous, la santé, c'est aussi un domaine de souveraineté tel que le dispose la Constitution de la République démocratique du Congo. Alors, pour vous, la contribution significative à l'amélioration de la santé publique devra, dans le secteur en fait, de l'hygiène et assainissement, devrait en principe être celle de l'État congolais et non de l'Union européenne. C'est ça, c'est ce que je comprends.
Mais on n'invente pas la roue. J'ai bien dit, à l'époque coloniale, et sous la Deuxième République, avant que la Deuxième République tombe dans des désordres à cause de trop de réunions au pouvoir vers les années 80, ça a commencé à un petit marché, mais des années 70, des années 75, les choses marchaient ici. Qui nettoyait la ville? C'était des individus, c'était des chariots, c'était des gens européens. Mais pourquoi on doit inventer tout le temps la roue? Mais dans d'autres pays où nous allons, nous trouvons notre peuple, ce sont des individus qui nettoient et ils font payer aux gens. Et si c'est ça, le contrôle de ces sociétés, qu'on peut donner des moyens aux individus et qu'ils puissent créer des sociétés, mais moi je pense que c'est une tâche qui revient à l'État. C'est une tâche qui doit être des entreprises d'intérêt public et que l'État doit créer et qui doivent être bien gérés. Nous, on a créé l'OVD, c'est pour l'État. On a créé l'Office des routes pour l'État. Mais ça ne marche pas. C'est parce qu'il y a un problème de gestion, il y a un problème des antivaleurs, il y a un problème de corruption dans le pays. Mais nous devons nous attaquer à ces et à ce niveau-là pour que les entreprises puissent marcher. Toutes les entreprises publiques ont des problèmes de gestion. Mais qui nomme ces gens-là? Et quels sont les critères qu'on utilise pour nommer les gens à la tête des entreprises pour que ça ne marche pas? C'est là que nous devons chercher à trouver des solutions, M. Gers.
Voilà, merci beaucoup Félicien. Mais donc là, on va encore plus loin pour proposer en fait la remise en service donc de ce service qui a toujours existé depuis la nuit des temps, les services d'hygiène dans les communes, dans nos villes et pourquoi pas à travers le pays pour assurer ces genres de projets. Ça pourrait peut-être donner les résultats coup de chapeau comme l'ont souligné certains auditeurs aujourd'hui avec le projet RTA ici à Kinshasa, la régie d'assainissement de la ville de Kinshasa. Bon, voilà, donc on aurait bien d'ailleurs souhaité pour avoir quelqu'un dans cette émission, notamment le numéro 1 de ces services. Malheureusement, les contacts ne nous ont pas permis de l'avoir. Merci beaucoup, Félicien, d'avoir répondu à notre appel pour contribuer dans cette émission. Je vous avais appelé de Kinshasa. Docteur Richard, vous êtes également dans la même ville. Bonjour.
Bonjour, Pierre. Bonjour à tout le monde et surtout. Félicitations à Mme Joséphine de Boston, qui a une culture qui me fait plaisir. Sans complexe, je dis, elle me donne de cours chaque jour quand elle parle. Alors, en ce qui concerne ce projet de l'Union européenne, je dis, ce n'est pas la première fois qu'à Kinshasa, on a un projet comme ça. Avant l'indépendance, il y avait Manu Transport, jusque vers les années 65. Et puis, dans chaque commune de la ville, parce qu'il n'y avait que 12 communes, je crois, il y avait des endroits où on déposait les bacs pour recueillir les déchets. Et dans les villes ou les communes des Blancs, devant chaque parcelle, il y avait des poubelles qu'on ramassait chaque matin par la même entreprise. Et il y avait une décharge.
Alors, docteur Richard. Docteur Richard, est-ce que vous pouvez changer votre position là où vous êtes?
Pardon?
On vous attend à peine. Donc, est-ce que vous pouvez changer votre position?
Je crois que si je sors, ça sera bien.
Voilà, ça s'améliore un tout petit peu. Allez-y.
Oui. Alors, je disais que l'Union européenne n'a apporté rien de neuf. L'Union européenne a avivé ce qui était avant, mais qui était tombée en veilleuse, parce que, de quelque part, nous avons la culture de l'amnésie. Alors, moi, ce que je veux faire, je veux dire quoi, c'est que la gestion de la poubelle, ou ce que nous sommes en train de voir, n'a pas comme finalité seulement de rendre la ville propre, mais de créer aussi des emplois, comme Mme Joséphine en a dit. Vous savez que, dans la poubelle, il y a plusieurs corps qui sont là. Corps, comme on dit, organiques, le corps métallique, le ferreux, non ferreux, etc. Et toutes ces choses peuvent être recyclées. Chez nous ici,
on va enterrer ça. Ça, c'est enfouir la richesse. C'est enfouir la richesse. Je vous apporterai mon travail sur la gestion de la poubelle, parce que je flirte avec l'environnement, et vous verrez qu'il y a une chaîne d'entreprises qui peut créer. Maintenant, je te dis la raison. Pour tous ces crédits, par exemple, des voitures en mer, 35 000 dollars à quelqu'un qui n'a pas de maison, comment il va s'enrichir demain? Comment il va finir sa retraite parce qu'il y a la chicote du nettoyage de la fonction publique qui a commencé? C'est ça le problème. Donc, la gestion de la poubelle crée des richesses. La poubelle, c'est une richesse. Mais le Congolais appelle ça saleté. Voilà encore le problème. Il faut une éducation à la base sur la gestion et la valorisation des déchets. Nous n'avons pas ça. Voilà. Il faut aussi que les 24 communes soient totalement couvertes par ce programme. Mais il y a seulement 9. 9 communes. C'est un coup de pied dans l'eau. Voilà. Et puis, quand on les enfouit là, vous savez qu'il y avait à Santiago de Chili, peut-être, on peut me corriger. Mmh. Une cité avait explosé parce que la poubelle avait créé des gaz, butane, méthane, etc. Ça aussi, c'est un danger, comme le gaz qui nous guette dans le lac Kivu. Merci.
Je vous en prie, docteur Richard. Là, nous retenons que ce projet ne date pas d'aujourd'hui. L'Union européenne, pour vous, c'est vrai, on n'a pas inventé la roue, parce que c'est dans les temps passés, il y avait ce genre de projet qui marchait plutôt bien. Vous avez cité le cas de Mali Transport en 1965, qui, en fait, au niveau de chaque commune, organisait cette gestion des immondices et qui permettrait de rendre la ville propre et de ne pas rester là. C'est-à-dire, ils ont créé de l'emploi et on a vu créer également des richesses. Alors, le problème aujourd'hui, c'est au niveau de la valorisation de ces déchets pour permettre à ce qu'on évite quelques impacts environnementaux négatifs qui pourraient, disons, créer des problèmes encore aux habitants. Merci beaucoup, Dr. Richard. Michel, vous êtes à Matadi. Nous vous accordons la parole.
Oui, merci, monsieur le journaliste. D'entrée de jeu, je ne sais pas, vous me suivez?
Oui, on est avec vous, Michel.
Oui, d'entrée de jeu. Je voudrais dire d'abord que le Congo ne fait jamais partie de l'Union européenne. Moi, parfois, ça me tourne. C'est pour notre propriété. Il faut que l'Union européenne vienne d'abord intervenir pendant que nous-mêmes, nous sommes là. Nous ne sommes pas deux, nous sommes nombreux. Est-ce que nous ne pouvons pas faire de cette initiative une initiative nationale où nous devons nous engager tous pour rendre notre ville propre pour tous les Congolais qui sont ici pour aller à la solution? Vous croyez qu'est-ce qu'il faut? C'est pour aller rendre la solution propre. C'est le travail qu'ils font. Moi, vous savez, j'ai compris tellement qu'il y a une mauvaise volonté dans nos chefs. On dirait que ce sont des gens qui ont abandonné le peuple. Ça, je vais confirmer comment. Vous savez, il n'y a pas si loin, nous avons eu dans notre province du Congo central le 55e anniversaire de l'indépendance. Avant cette fête, toutes les forces vives de la province ont été mobilisées pour assainir cette ville. Or, c'était justement pour cette fête. Mais avant la fête, je vous dis que la ville de Matadi a été un paradis. Où lorsque vous y passez, vous trouvez que des lumières. Mais juste après les fêtes, nous sommes rentrés comme des habitudes d'avant, mon frère. C'est la mauvaise volonté. Donc nous avons des chefs qui ne savent pas. Ils ont ce goût-là. Ils ont cette volonté. Mais le problème en est que ils ne sont pas dans cet apport-là. Parce que moi, je ne peux pas l'imaginer. Vous allez rendre la ville propre pour une seule fête. Est-ce que vous ne pouvez pas en faire une habitude, qu'on peut vivre comme ça tous les jours? Après les fêtes, moi, j'aimerais que le président de la République, qui était passé ici, lors de ces précisions, qu'il rentre encore pour venir voir maintenant ce qui s'est fait. Et donc, c'est de la flatterie. Et ce sont des choses que nous ne pouvons pas encourager. Parce que les atouts sont là. Donc, vous les faites seulement. On dirait que le bagage dans l'Irana, Boussala Mabdanko. Parce que les fêtes étaient là, vous avez rendu la ville propre. Et tout le monde a aimé. Maintenant, après la fête, nous sommes revenus encore. Ça, je pense que moi, je viens de Kinshasa. Je suis allé à Bumbu, je suis allé à Makala, à Selembao. Frère, même cet apport de l'Union européenne, c'est seulement dans le centre-ville. C'est là où passent les autorités. J'ai été au rond-point. Mais je ne peux pas comprendre comment les gens doivent vivre avec cette qualité. Je ne peux pas comprendre. Oui, je vous remercie, mon frère.
Merci beaucoup, Michel, d'avoir appelé le Matadi. On va prendre Daniel, qui est à Lubumbashi. Bonjour, Daniel.
Bonjour Pierre, et bonjour à tous nos amis qui suivent la radio Capi en ce moment.
Vous avez la parole, Daniel. Vous avez suivi le docteur Richard qui a parlé tout à l'heure de la gestion, une très bonne gestion des immondices, crée des richesses, crée l'emploi et rend également la ville propre. Il y a Jeannot qui a beaucoup plus insisté sur en fait cette chaîne de gestion des immondices, la tri, le recyclage et tant d'autres. Alors, il y a Madame Joséphine qui est revenue, qui a partagé d'ailleurs le même avis avec Dr Richard, mais quel est votre point de vue, Daniel?
Bien, tout à fait. Une bonne gestion des immondices crée l'emploi. Et je voudrais dire, la responsabilité est partagée entre la conscience de la population et nos autorités qui nous gouvernent. Hier, un des intervenants est revenu là-dessus. C'est quand même paradoxal, hein, quand on voit surtout ces derniers temps le fonds qui utilise parfois nos autorités pour justifier, déclarer de l'indépendance, de la souveraineté. Mais quand vous déclarez pour cette souveraineté, mais il y a des domaines qui sont vraiment, qui sont même la honte. On apprend que c'est l'Union européenne qui nous aide pour pouvoir embellir et donner la propriété à nos villes. Donc vous acceptez qu'un étranger vienne enlever votre santé. La santé que tu as créée toi-même.
Oui, Daniel, il faut quand même signaler que ses partenaires viennent à l'appui. Et à un certain niveau quand même des participations, ce n'est pas dans l'ensemble de choses.
Mais j'ai suivi, il y a toujours la radio, tapis, c'est-à-dire le quoi? Le gouvernement de Kinshasa, quand il vient reprendre ce domaine-là de la stabilité de la ville de Kinshasa, il envisage même réduire l'effectif. Donc ça veut dire qu'il y a de nos compatriotes qui seront en chômage. Ça fait le promoteur de Jésus. Maintenant, quand le même étranger te dit de venir respecter le serment que tu as fait devant ta face, ça se devient dérangeable. Je veux dire de l'hypocrite aussi de la population. Je prends l'exemple de notre ville de Lubumbashi. Effectivement, la mairie a disposé des conteneurs dans des différents coins où c'est censé rejeter les saletés. Après, il y a des camions de la mairie qui viendront passer pour enlever ces saletés. Mais la population est en train de jeter ces saletés-là par terre. Là, c'est du côté hein, de la population. Et ce qui me tombe, je ne comprends pas comment nos villes ici sont des villes qui sont bien construites. Nous sommes ici à côté de la Zambie. Quand vous voyez par exemple Kinabombo, Kingola en Zambie, ce sont des petites villes. Et mais il y a un slogan, on vous dit, c'est Zambia qui je veux dire tout simplement, garder la Zambie propre. Et vous allez voir, on donne même des images, on est en train de sensibiliser la population, comment il faut jeter. Les slapons utilisés, des sachets utilisés, mais sur ce point-là, il faut aussi qu'on voit comment interdire la production de nos sachets ici qui ne sont pas
dégradables. Daniel,
aussi, en plus de maintenir la propriété, protéger aussi l'environnement, par exemple.
Oui, Daniel, nous avons suivi tous les directeurs général de la régie d'assainissement et des travaux publics de Kinshasa, RATPK, qui tient même insister sur la poursuite d'ailleurs de ce projet qui doit être désormais cofinancé après bien entendu une négociation entre des parties, c'est-à-dire l'Union Européenne et la ville province de Kinshasa. Alors, c'est connu de tous, quoi. En fait, les projets tournaient à employer 140 agents et aujourd'hui, votre inquiétude tourne autour de ces agents, une bonne partie qui sera mise en chômage, mais entendre les responsables, il n'en sera pas question, d'autant plus que les projets vont continuer.
C'est-à-dire, comme vous le dites, c'est ici que nous, on est habitué au projet. Le projet, il y en a beaucoup, il y en a des centaines, voire même des milliers. Ils demeurent dans des tiroirs de ceux qui les prennent ou bien ceux qui les contentent. Mais la réalité, c'est la réalité que nous vivons sur le terrain est tout autre. Hein, le projet des sachets biodégradables, quand est-ce que ce projet-là sera mis en application? Quand est-ce qu'il viendra? Mais ce que nous vivons au quotidien, hier, ce sont des sachets, des tonnes de sachets qui sont entassés. La population aussi n'était pas suffisamment informé ou on ne sait pas. Donc, c'est un peu mauvais.
Voilà, merci beaucoup, Daniel. Merci beaucoup Daniel. Il faut également noter que aujourd'hui le gouvernement de la ville de Kinshasa s'appuie sur la taxe d'assainissement de la ville qui sera donc une valeur ajoutée dans ce projet pour permettre la poursuite correcte de ce projet. Donc je crois que si jamais dans les jours à venir dans le cadre de la gestion des immondices à travers le pays et que cette taxe pouvait être exigée à la population, donc la population ne va pas s'étonner, ça sera peut-être dans le cadre de pouvoir continuer des projets qui ont connu peut-être des engagements de partenaires. Voilà, merci beaucoup Daniel d'avoir appelé de Lubumbashi. Olivier, vous êtes à Kikwit, bonjour.
Bonjour Chier, bonjour à tous les auditeurs.
Vous avez la parole Olivier.
Ok, voilà, je voulais d'abord rappeler quelques réflexions des anciens premiers ministres. Un premier ministre anglais qui disait ceci: le souci de la santé publique est le premier devoir d'un homme d'État. Alors, lorsque vous réfléchissez à partir de cette affirmation, vous comprendrez facilement pourquoi dans les pays occidentaux, partout, toutes les villes, petites ou grandes, sont des villes où on fait l'assainissement et on tient vraiment compte de l'hygiène. Ça, c'est le premier souci des hommes d'État. Et lorsque vous considérez ce qui se passe chez nous, en fait, on a l'impression que la santé publique, c'est notre dernier souci. Et c'est pour ça que nous avons des problèmes. Alors, si nous prenons Kinshasa, je vais vous rappeler que c'est depuis très longtemps que la ville de Kinshasa, à l'époque des anciens gouverneurs Sakumbi et autres, on a toujours eu des problèmes dans le ramassage des poubelles. Et on a eu à acheter. Allô?
Oui, allez-y, Olivier.
Oui, on a eu à acheter plusieurs véhicules. Je me souviens que dans les années 80, la RDC, vous avez à l'époque, avait commandé beaucoup de véhicules de ramassage des poubelles. Les véhicules sont arrivés à Kinshasa et puis quelques temps après, on ne savait plus comment les gérer. Alors, on sait donc qu'on avait l'Union européenne. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? L'Union européenne constate que nous n'arrivons pas à suivre le mouvement mondial. Parce que il faut aussi retenir que le défaut d'hygiène ici chez nous peut avoir des implications sur la santé chez nos voisins du Congo-Gaza, chez nos voisins du Gabon, et ça, faut s'en rendre compte. Et c'est pour ça que les personnes extérieures se sentent obligées de venir chercher à nous aider. Mais nous, très souvent, nous prenons ça très très mal. Alors, ça signifie que, pour moi, le problème, c'est d'abord au niveau de la RDC. Et tout ça part d'une absence d'une législation sanitaire adéquate. Parce que lorsque la législation sanitaire est bien élaborée, eh bien, automatiquement, ça incorpore les problèmes d'assainissement, problèmes d'hygiène, et ça ne doit pas poser de problème. Donc, nous avons un problème d'abord de législation, santé publique, on ne sait pas ce qu'on doit faire. Alors, vous avez suivi il y a quelques temps, le personnel de la ville qui s'occupait de ça a peur de voir l'Union européenne partir. Et c'est une peur fondée parce qu'on sait que les salaires ou les primes ne vont plus suivre. Donc, ça signifie que nous avons beaucoup de difficultés. Ce n'est pas l'argent qui manque. Mais ces gens-là savent que nous qui gérons cet argent ici à RDC, très souvent, nous gérons très mal. Et mais le travail, il faut le faire. Et nous, si nous disons que le projet continue, il ne faudrait pas qu'on laisse la charge à l'Union européenne. C'est notre travail à nous, JL. C'est notre travail à nous. Donc, je pense que nous devons prendre conscience et l'autorité publique, c'est la première autorité à s'occuper de ce problème. Donc, je ne vois pas pourquoi on doit toujours la charge de l'Union européenne. Mais il faut mettre cela dans le cadre législatif. Nos députés doivent travailler et s'ils n'ont pas à travailler, s'ils ne doivent pas travailler, ben, il y a une solution, que certaines personnes se déchargent de la fonction publique. Voilà, je peux dire.
Merci beaucoup, Olivier, d'avoir appelé de Kinshasa 081-890-6315 pour votre intervention en direct.
Après la France, la Belgique, le Canada et les États-Unis, les francophonies s'installent en RDC du 7 au 13 septembre, vivront au rythme des sonorités congolaises et étrangères au Centre culturel Meko, au Centre Wallonie-Bruxelles, au Théâtre de Verdure, à l'Hôtel Invest et dans certains bars désignés pour les folies. Avec à l'affiche, La Queen, Soprano, Papa Wemba, Jibentiana, Pali Tupa, Fabregas, Alexis Legal, Jean Roubalcalala et tant d'autres artistes congolais et internationaux. Les francophonies de Kinshasa
du 7 au 13 septembre avec l'ASBL, Aphrodisiac et Radio Capitale.
Voilà, merci de votre fidélité à Radio Capi. Nous poursuivons avec parole aux auditeurs ce cadre d'échange citoyen. Maître Dominique, vous êtes à Mbujimayi. Bonjour.
Bonjour, monsieur Gilles.
Vous avez la parole, Maître Dominique.
Allô?
Oui, allô, Maître Dominique, vous avez la parole. Quel est votre point de vue?
Oui, je voudrais dire, moi, ceci, je voudrais dire, en rapport avec ce problème de partenariat avec la ville de Kinshasa sur la gestion des déchets, il faudra que l'on comprenne d'abord quelle est la politique générale de notre pays et puis pour la province, la ville-province de Kinshasa. Quelle est la politique générale qu'ils ont sur la gestion de ces déchets? Parce que, M. J.R., aujourd'hui, la ville de Kinshasa a pris des dimensions terribles. Alors, on doit savoir comment gérer ça, les déchets en priorité. Parce que nous avons des déchets de plusieurs ordres. Aujourd'hui, Kinshasa a de grandes usines. Où est-ce qu'on jette ces déchets? Kinshasa aujourd'hui a beaucoup de déchets ménagers. Kinshasa a des déchets des hôpitaux. Où est-ce qu'on jette tout cela? Hein? On doit, le gouvernement provincial doit normalement nous sortir une politique générale. Et même quand on parle de la décentralisation, il faudra tenir compte aussi des hommes qui doivent venir. Quel est leur plan d'action quand ils seront au poste? Mais aujourd'hui, nos frères, nous Congolais, lorsque nous voulons élire, nous élisons les gens parce qu'ils nous donnent de l'argent, parce qu'ils sont populaires, on les connaît au football, parce qu'on les connaît au diamant, parce qu'on les connaît, ils sont des commerçants, et surtout qu'ils distribuent de l'argent. Sans cela, on ne tient pas compte de la santé. Or, ça, c'est le développement durable. Qu'est-ce que sera demain tous ces déchets-là? Alors, maintenant, quand l'Union européenne est en train de partir, on doit nous dire quels étaient normalement les termes de leur partenariat. Est-ce qu'ils venaient pour qu'ils laissent, la main-d'œuvre aux Congolais? Ils venaient pour un temps record, ils travaillent, ils partent, c'est tout, et ils terminent la gestion de ces déchets, ou bien Kinshasa les avait pris pour qu'ils viennent apprendre aux Congolais et laisser la technologie aux Congolais. Ça, c'est un problème, M. J.R. Normalement, s'il y avait un invité, il devait nous préciser là-dessus.
Mais une chose après,
alors,
Dominique,
comme nous n'avons pas d'experts...
Oui, Maître Dominique, je crois que qu'on peut dire sous réserve de d'experts, tout partenaire traditionnel, en fait, vient en appui au gouvernement congolais par le financement des projets proposés par le gouvernement congolais. S'agissant donc du secteur de l'assainissement et de la gestion des immondices, comme vous l'avez dit, comme nous l'avons dit tout à l'heure, donc je crois que l'Union européenne est venue en appui par rapport à ce que l'État congolais a proposé comme projet. Et les projets qui avaient commencé, pour ceux qui s'en souviennent, en 2007-2010, avec le projet POC, qui s'est transformé par la suite en projet PARO, parce qu'on devait continuer, selon les termes de référence, entre le gouvernement congolais et le partenaire traditionnel qu'on a cité à l'Union européenne. Voilà, donc dans chaque domaine, il y a ce que nous appelons l'appui de partenaires traditionnels. Ben, c'est à un niveau donné de leur participation, ça peut être à hauteur de 20%. Ou de 10% par rapport au projet. Pour le cas d'espèce, l'Union européenne intervenait à hauteur de 1 million de dollars américains pour ces projets.
Alors, M. Gier, si l'Union européenne n'intervenait qu'à raison de 1 million de dollars, dis-moi, est-ce que cela peut coûter les yeux de la tête du gouverneur de Kinshasa?
Un million de dollars par mois, Maître Dominique.
Les éco-citoyens soient partout. Il faudra que les dépôts citoyens soient partout. Aujourd'hui, surtout avec le réchauffement climatique, je voudrais en appeler à tous les Congolais, d'avoir à cœur l'environnement. Parce que, mettez-vous en tête, M. J.R., que les maladies de main sale ont commencé à pulluler depuis un certain temps. Ici, au Kasaï oriental, c'est la maladie... Ici, au Kasaï oriental, les maladies de main sale sont au top. Pourquoi? Parce que si vous arrivez en Bougival, M. J.R., vous allez vous étonner. Aucune notion de gestion de déchets, soit industriels, soit ménagers, la MIBA, la Poly ou la rivière, l'Ouvillagi, si vous venez ici, nos déchets ménagers, ils sont jetés sur la voie publique, ou soit on terrassier qui amène l'eau à la rivière l'Ouvillagi, et là, à Kinshasa, vous avez toute la dette.
Voilà, on a des soucis avec la ligne de Maître Dominique qui nous a appelé de Mbujimaï. Bon, je crois que Maître Dominique, vous êtes encore là? Voilà, dommage. Nous allons prendre Simon Siloulou qui est à Matadi. Simon, vous êtes avec nous, bonjour.
Oui, bonjour JR et bonjour à tous les auditeurs qui nous suivent à ce net moment. Notre intervention voudrait seulement dire qu'aujourd'hui, les maladies ne font que s'accroître à travers surtout les grands centres urbains de notre pays. Et les gens ne font que mourir. Et puis il y a la malaria, il y a la fièvre typhoïde, il y a la mort qui s'ensuit. Et l'auteur de parce que l'environnement n'est pas assaini. Étant donné que l'environnement ne soit pas assaini, le premier ou la personne qui subit la conséquence de cet environnement malsain, c'est la population. Et l'auteur des immondices, c'est la population elle-même. Moi, je pense que l'article 53 de la Constitution de notre pays, qui demande à la population, à toute personne qui doit avoir droit à un environnement sain, et que la population est appelée à défendre son environnement. On a seulement demandé à l'État congolais de veiller. Moi, je crois que ce genre d'ouverture peut nous donner un esprit, une idée. Au lieu que ça soit la population puisse commencer, parce que la population, les immondices ou les détritus là ne sont pas canalisés, l'État ou le gouvernement provincial peuvent créer les fonds provinciaux de l'insalubrité. Et comment trouver l'argent? Et comme c'est la population qui crée qui est l'auteur de ces immondices et de l'impropriété, de l'insalubrité, seulement dans les entreprises où nous tous nous travaillons, on met ça sur les rubriques salaires. On prend même 500 francs ou 300 francs pour le fonctionnement de ces fonds. Chaque mois, à partir de la banque, et selon les grades ou selon les rangs qu'on occupe dans une entreprise, la taxe pouvait être liée à ça. Et vous verrez que ça va facilement fonctionner. Et l'État congolais, dans son rôle de veiller à la propriété, peut du moins recenser les gens qui travaillent, qui vendent ainsi de suite, parce que notre vie en dépend. Notre vie dépend de la propriété et de l'environnement. Regardez aujourd'hui dans nos morgues, dans nos hôpitaux, il y a des morts, les maladies, les infections qui se multiplient parce que nous respirons l'air pollué causé par nous-mêmes.
Voilà, merci beaucoup Simon Siloulou d'avoir appelé de Matadi au Congo central. Didier, vous êtes à Kinshasa, bonjour.
Bonjour Monsieur Jean.
Vous avez la parole, quel est votre point de vue?
Oui, je commence d'abord à féliciter le précédent intervenant de cette émission. Parce que tout ce qu'ils ont dit est cadre de ce que je vais dire tout de suite. Et je commence à CGR. Regardez aujourd'hui la ville de Kinshasa, parce que moi je suis allé précisément vers Livoulou. Maintenant, l'Union européenne a appuyé 9 communes, c'est ce que vous venez de nous entendre.
Oui, 9.
Maintenant, oui, les restes des communes, parce que chez moi à Lemba, il n'y a pas cet appui-là. On ne remarquait pas cet appui. Et au niveau de Livoulou, je vous dis, si vous parcourez, c'est juste même au niveau de Campis, vous n'allez même pas voir ne fût-ce qu'une seule poubelle dans notre commune. Mais dites-moi, aujourd'hui, oui, le gouvernement dit qu'ils ne veulent plus qu'il y ait de maîtres de leçons. Mais lorsque l'Union européenne vient, ne fût-ce que pour assainir la ville forestière de Kinshasa, ça, ils ont pris ça comme exemple, ça c'est déjà une leçon. Ils prennent 9 communes. Maintenant, les restes des communes, est-ce que le gouvernement ne devrait même pas récupérer ne fût-ce que 2 ou 3 communes pour appuyer aussi les partenaires, parce que oui, ils ont déjà pris 9 communes. Maintenant, la tâche ou le rôle de l'État congolais, c'est de faire quoi? C'est peut-être de prendre 2 ou 3 communes, d'appuyer maintenant le projet de l'Union européenne. Mais nous remarquons que c'est comme si le gouvernement a croisé les bras, il n'y a rien qui se fait dans ce sens-là. C'est pourquoi je dois dire ceci, peut-être je ne serai pas le prophète de malheur pour dire que la continuité de ce projet-là, parce que l'Union européenne vient de terminer, et c'est le gouvernement qui doit maintenant continuer avec le projet, c'est-à-dire la continuité de ce projet. Je ne vois mal qu'aujourd'hui le gouvernement peut aboutir maintenant à un résultat, parce que si le gouvernement n'intervient même pas à inclure 2 ou 3 communes en plus de ce que l'Union européenne a déjà fait, alors moi je vois mal qu'il y ait la continuité de ce projet. Alors, à un moment donné, je félicite quand même la dame qui est intervenue
à Boston.
On devrait maintenant créer d'autres villes tout autour de la ville forest de Kinshasa. Oui, c'est bien. Mais je peux dire ceci. Aujourd'hui, à Kinshasa, on a à peu près, bon, nous avons 24 communes. Or, parmi les 24 communes, on remarque qu'il y a au moins de 10 communes qui est vraiment habitable, là où il y a au moins 90% de la population qui reste dans la ville.
Mm-hmm.
Alors, dites-moi un peu, la dame propose bien de créer d'autres villes tout autour de la ville forestière de Kinshasa. Ce qu'on peut faire, c'est de dégorger d'abord la population, ce qui reste parce qu'on prend la commune comme Bandan, où il y a vraiment la promiscuité, parce que moi, je rappelle que j'ai fait l'épidémiologie. Or, on remarque que lorsqu'il y a plus déjà entassé quelque part, il y aura développement de la maladie. Alors, il y a une maladie comme la rougeole, il y a l'autre qui a parlé de maladie de Meslin, la fièvre typhoïde, il y a le paludisme. Tout ça, c'est parce qu'il y a la santé. Alors, on peut faciliter d'abord la population en occupant d'autres communes qui est inhabitée carrément, parce que si vous prenez, c'est les Maloukou. Donc, c'est là où il y a l'étendue. La grande partie de l'étendue, c'est vers des communes inhabitées.
Voilà. Alors, Didier, il y a tout à l'heure, c'est bon, c'est Loulou qui proposait la création d'un pont provincial de salubrité qui pourrait donc peut-être servir pour résoudre cette problématique de gestion des immondices singulièrement pour la ville de Kinshasa et en général à travers le pays.
Oui, c'est tout à fait normal, mais vous venez de dire tout à l'heure que non, il y aura maintenant des taxes supplémentaires, c'est ce que vous avez dit, si je comprends bien. Il y aura des taxes supplémentaires pour continuer maintenant avec les projets. Or, ces taxes-là, c'est bien. Les Congolais, nous, les problèmes, c'est qu'on a un problème de gestion. On ne sait pas qui va gérer les programmes, parce que l'Union européenne va se dégager de la situation. Qui va maintenant gérer
les programmes? Oui, en ce qui concerne la ville de Kinshasa, Didier, il y a toute une régie d'assainissement et des travaux publics de Kinshasa, RATPK, c'est comme ça qu'on l'appelle, qui est dirigé par le professeur Biey, un environnementaliste. Donc je crois que c'est à ce niveau-là qu'on va gérer, et c'est d'ailleurs lui, pour ne pas le citer, qui a, au fait, par rapport à ce projet, à la poursuite de ce projet, s'est prononcé au niveau de Radio Capi. Il a dit qu'effectivement, on se propose donc la perception d'une taxe d'assainissement pour, au fait, appuyer ces projets, la continuité de ces projets.
Oui, c'est normal. Notre point, nous voulons maintenant que les projets soient pragmatiques, c'est-à-dire la finalité. Ok, la continuité, c'est bon. Est-ce qu'on va aboutir à un résultat escompté? C'est ça le problème. Le problème n'est pas seulement dire oui, on sait des noms, il y a des gens qui peuvent travailler. Les Congolais, il y a des capacités, parce que je me rappelle même, aujourd'hui, on peut dire que non, il n'y a pas de gens qui peuvent gérer. Non. Je reconnais qu'il y a des facultés, il y a des départements. Par exemple, si on peut les citer comme la liste de Kinshasa, il y a tout un département de l'hygiène et assainissement. Mais vous allez remarquer, quelqu'un qui termine, il a sa licence à l'ingénieur assainissement, mais il demande encore de présenter l'expérience de 3, 4, 5 ans. Bon, je ne sais pas où est-ce qu'il va trouver cette expérience-là. Bon, ce sont des personnes pareilles qu'on peut les récupérer pour travailler ensemble avec le gouvernement. Ils peuvent proposer des solutions parce qu'il a étudié, il a fait 5 ans, comment gérer les immondices, comment entretenir l'environnement, parce que si l'environnement n'est pas entretenu, on va toujours rechuter.
Dans le même problème. On va toujours merci, beaucoup. Merci, beaucoup. Merci beaucoup Didier. Osumaka, vous êtes à Kinkole, bonjour.
Bonjour, Gilles.
Vous avez la parole.
Merci de m'avoir apporté la parole. À propos de la justice du monde, surtout la société de Kinshasa et puis la République démocratique du Congo, c'est un problème qui est complexe, mais simple. Nous allons nous référer à l'histoire de notre pays. Alors, c'est un problème de participation citoyenne. D'un côté, c'est la population qui doit faciliter. Parce que c'est la population qui crée ces outils. Alors, le gouvernement, au niveau des entités, il va faire payer à chaque parcelle, la chaque parcelle. Et à partir de cette charge-là, on peut ajouter une barrière de promotion de la sécurité. Alors, comme ça, on pourra sauver chaque parcelle et chaque ville. De deux, il y a le problème du gouvernement et les entreprises privées. Elles doivent, leur tour, payer les taxes environnementales pour la promotion de la salubrité. Je crois que si vous vous rendez pays de l'Est en Ouganda. Le seul stationnement de véhicules sur la route est soumis à une taxe d'arrêt. Donc le stoppage, quoi. Quand vous arrêtez dans un endroit qui n'est pas autorisé par
le. Dommage au Soumaka, on vous suit vraiment avec des micro-coupures. C'est difficile de poursuivre avec vous, Sratoté. Ben merci d'avoir accepté de contribuer dans cette émission en citant quelques exemples de pays voisins qui, en fait, ont utilisé des approches qui marchent plutôt bien dans la gestion des immondices. Voilà, c'est par ici que nous mettons un terme à ce programme. Nous disons merci à Paul Badianyama qui a assuré la mise en onde de cette émission réalisée par Julie Fezabongonda. Nous avons eu le plaisir, nous, c'est-à-dire Gilles Ngembo, de présenter et coordonner cette émission supervisée par Léonard Moulamba. À très bientôt pour un autre numéro.